Notre Père céleste, merci de ta bonté, merci de ton amour, et nous l'avons chanté, mais nous voulons plus que le vivre comme un sentiment, mais en action et en vérité. N'aimons point en parole, nous dit la Bible, mais en action en vérité. Alors nous te demandons qu'au travers de cette année, ce thème que nous avons choisi, Koinonia, la communion avec toi, la communion entre frères et sœurs, puisse dans nos cœurs prendre tout l'enracinement nécessaire, la profondeur de l'amour de Dieu, afin de te contempler et d'être une bénédiction les uns pour les autres. Merci pour ton pardon jour après jour, Seigneur Jésus, dans nos vies, pour ta grâce, pour le pardon réciproque dont nous vivons ici, un exemple d'amour, de bonté les uns vers les autres, de compassion, de miséricorde. Merci de ta fidélité et de ta miséricorde. Seigneur, c'est incroyable comment ta grâce abonde dans nos vies et nous sommes au bénéfice de tous tes attributs qui se déversent sur nous, tes bénédictions. Assis dans les lieux célestes, nous avons tout pleinement en Christ. Alors, comme dirait l'apôtre Pierre, vers qui irions-nous, toi, qui as les paroles de la vie? Père, je voudrais te demander ce matin de te glorifier dans ce message, la méditation sur la communion, que ta grâce soit sur chacun de nous. Enseigne-nous, Seigneur, à t'aimer, à te chérir, à vivre en communion avec toi de façon intime, à l'exemple de l'apôtre Jean, des disciples, comme des exemples qui nous ont été donnés. Et ainsi, nous t'aimerons encore plus et nous te bénirons. Amen. Alors, je vous invite, bien-aimés, à tourner dans vos Bibles au psaume 133. Nous n'allons pas étudier en détail le psaume 133, mais c'est une introduction au sujet que nous allons voir ce matin. La koinonia, qui est traduit par, dans nos Bibles, la communion, mais d'autres mots, on va y venir. Que dit la Bible dans le psaume 133 ? Cantique de degré de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, déjà, dans l'Ancien Testament, David se réjouissait du fait que des frères et des sœurs demeurent ensemble et vivent une communion avec Dieu qui les réjouisse, qui leur accorde un bonheur de cette amitié fraternelle, cette qualité relationnelle qui est vraiment le trait caractéristique des enfants de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai imaginé un petit peu Aaron, n'est-ce pas, lorsqu'il a été oint comme souverain sacrificateur et on lui versait dessus, on loignait exactement d'huile sur la tête avec tous l'huile qui devait déverser sur la barbe qui était abondante. C'est une image évidemment de ce que Dieu peut faire lorsqu'on oint quelqu'un du Saint-Esprit. Mais ça devait quand même être un portrait assez particulier. Et puis les questions de la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon qui est le rafraîchissement spirituel que Dieu veut nous accorder tous les matins, comme la manne céleste, la présence de Christ, la méditation de sa parole afin de rafraîchir nos âmes et notre vie spirituelle afin que nous marchions selon l'Esprit jour après jour. Et la Bible ajoute, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a une bénédiction particulière pour les enfants de Dieu qui s'aiment, qui vivent ensemble, qui servent le Seigneur ensemble. En fait, j'ai noté ici que le témoignage de la communion fraternelle est l'un des plus beaux témoignages de l'Église de Jésus-Christ envers le monde. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres ». En fait, si Dieu cherche à répandre son amour et à constamment unir l'Église de Jésus-Christ, Satan, lui, cherche à la diviser. Il cherche à trouver des brèches par lesquelles il va faire du mal à l'Église. Il va essayer d'ébranler l'unité de l'Église et l'amour de Dieu dans les cœurs. D'ailleurs, une de ses ruses les plus subtiles, c'est de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. ou que Dieu a cessé de nous aimer, ou que Dieu n'a plus un plan particulier pour nos vies, et nos vies avec lui, notre marche avec lui, notre service envers lui. Satan est l'ennemi de nos âmes. Et c'est pour ça que l'unité de l'Église de Jésus-Christ est l'objet de ses attaques. Alors le mot communion que l'on trouve dans d'autres textes, on va y venir, vient du grec koinonia, que l'on trouve 20 fois dans la Bible, et ce dans 17 différents versets du Nouveau Testament notamment. Le mot grec koinonia vient du mot, un autre mot grec, koinos, c'est sa racine qui signifie commun à plusieurs personnes. Donc la communion, c'est quelque chose qui est en commun avec plusieurs. Alors, dépendamment du texte, je vous donne les traductions que l'on trouve notamment dans la Bible Louis II. On peut le traduire par communion fraternelle, communion tout court, ce qui est en commun, contribution, don, prendre part, communication, association, dispensation, union, participation, libéralité. En fait, quand on lit le Nouveau Testament, on lit ces différents mots que je viens de mentionner, mais on ne sait peut-être pas que ça vient du mot koinonia. Mais le mot koinonia en grec est très riche, il y a tous ces aspects, n'est-ce pas, de signification. Alors, en premier lieu, c'est la communion, ce qui est donc commun à plusieurs personnes, relation dans laquelle deux parties ont quelque chose en commun, association, partage intime. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans un texte, il est question de la main d'association. Lorsqu'on est chrétien, on s'aime, mais on fait plus que s'aimer, on s'entraide, et ce n'est pas simplement un sentiment, ce sont des actions pratiques qui sont le reflet de l'amour de Christ en nous. En Romains 15, 26, il est question du mot comme une contribution volontaire, c'est donc une libéralité, ou même en 2 Corinthiens 8, 4, une assistance, une libéralité. L'amour fraternel, c'est aussi voir les besoins des autres et essayer de les combler en tant que communauté. La première mention du mot koinonia se trouve en Actes, chapitre 2, verset 42, et je vous lis le texte, il est écrit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Une des beautés de l'Église, qui n'existe pas en dehors de l'Église, c'est la communion fraternelle. C'est une vraie amitié les uns envers les autres. On peut faire partie d'un club. Pendant des années, j'ai fait partie d'un club de tennis. Et j'ai eu une déception. Bon, je ne pensais pas vous dire ça ce matin, mais ça m'a venu à l'esprit. Lorsque j'ai été blessé, ni le coach, ni d'autres membres, sauf un finalement qui m'a téléphoné presque après un an, on dit « on ne te voit plus Michel ». J'ai dit « oui, je ne peux plus jouer, j'ai un problème ». Je me suis aperçu que ce n'est pas du tout pareil dans l'Église. Lorsqu'un membre souffre, les autres souffrent. Lorsqu'un membre est dans la joie, les autres sont dans la joie. Lorsque quelqu'un est dans la peine, les autres sont dans la peine. Nous partageons réellement ce que nous avons en commun avec un vrai amour. Donc on peut être déçu des groupements auxquels on peut s'associer, ou des clubs, vous comprenez ce que je veux dire, ou même des groupements d'amis. Mais avec Jésus, le véritable ami, on n'est jamais déçu. Et avec nos vrais amis chrétiens, lorsqu'on vit dans le vrai amour de Christ, on n'est pas déçu. Bien sûr, ne soyons pas tellement idéalistes qu'on ne voit plus le fait des imperfections de l'Église. L'idéal de l'Église, bien sûr, c'est de viser la perfection. Mais comme on est tous des pécheurs, un jour quelqu'un a visité le pasteur, il a dit, vous savez, pasteur, je cherche l'Église parfaite. Et le pasteur l'a regardé, écoutez, venez pas ici, parce que le jour où vous allez entrer, elle va être imparfaite. Il n'y a personne qui est parfait. Mais malgré l'imperfection et l'idéal que nous avons de l'Église et toutes les attentes que nous pourrions avoir, les frères et sœurs même de l'Église, qui ne sont jamais satisfaites, reconnaissons-le, et nous avons tous des déceptions, des frustrations, voire des irritations, mais le Seigneur Jésus nous comble de son amour, afin que l'huile du Saint-Esprit fasse que les rouages de la communion soient baignés dans sa présence et fasse que cette réalité de la communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit soit une réalité entre nous, les enfants de Dieu. Voyez comme ils s'aiment. C'est à ce signe que vous les reconnaîtrez. Dieu veut que nous soyons, bien-aimés, remplis de l'amour de Christ. Tout d'abord à ses pieds, ensuite rempli de l'amour des frères et sœurs. Comme quelqu'un a prié, mission impossible de s'aimer si on n'a pas l'amour de Christ. Mais par la nouvelle nature que Dieu nous a donnée, nous apprenons à nous aimer les uns les autres, malgré nos différences d'éducation, de pensée, d'instruction, de culture. Dieu nous unit par son esprit et ainsi se glorifie au sein de l'Église locale. C'est la volonté de Dieu que nous pratiquions ce que la Bible appelle la koinonia. Et la Bible dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lorsqu'une église est unie, il y a une bénédiction particulière. Et c'est merveilleux de vivre dans cette unité de pensée et d'action. Nous allons le regarder ensemble. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à la fin de mon exposé ce matin. Mais par la grâce de Dieu, mon désir, c'est que nous puissions voir ensemble que la koinonia est principalement basée et centrée sur Dieu. Et ensuite, on parlera du fruit de la koinonia dans la vie de l'Église, l'amour, l'unité et la loyauté. On pourrait donner beaucoup d'autres aspects, mais j'ai pensé vous donner et vous exposer ce matin, Dieu voulant, ces choses-là. Je vous invite, sans plus tarder, et je ne fais pas concurrence, n'est-ce pas, avec la prochaine étude de l'épître de Jean, la première épître de Jean, mais je vous invite à lire avec moi les quelques premiers versets de l'épître de Jean, qui est une épître extraordinaire de Jean, l'apôtre, le bien-aimé de Jésus, celui qui se blottissait contre son sein, qui aimait particulièrement le Seigneur. Et il introduit son épître comme ceci. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion, koinonia, avec nous. Or, notre communion, koinonia, est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La joie de l'apôtre Jean, c'était de partager cette communion qu'il avait de façon intime avec le Seigneur Jésus et de le voir, cette communion être partagée, de la voir cette communion être partagée avec les frères et les sœurs qui sont eux-mêmes aussi en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Nous ne pouvons pas parler de communion fraternelle si d'abord il n'y a pas une communion avec Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. La vraie communion fraternelle, elle est basée sur une personne qui est Jésus-Christ. C'est lui qui permet notamment de nous accepter les uns les autres, de nous pardonner réciproquement, d'exercer la bonté les uns envers les autres, parce que nous sommes en communion avec Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ, qui lui-même nous a pardonnés. Et nous pouvons nous aimer les uns les autres, être patients les uns vers les autres, être bons, exercer la bonté, la miséricorde, l'entraide, parce que Jésus est le bon berger qui prend plaisir à la miséricorde dans nos vies. Alors cette communion ici, elle est assez extraordinaire, la communion de l'apôtre Jean. Il dit ceci au commencement, nous avons entendu. Jean, tu as entendu Jésus sur la terre. Vous n'avez jamais eu la pensée, et moi si j'avais pu vivre du temps de Jésus, je l'aurais aussi entendu de mes oreilles. Et il dit, ce que nous avons vu de nos yeux, Jean, tu as vu Jésus de tes yeux. C'est pas extraordinaire cela? Alors moi, je commence à être jaloux de Jean. Il me dit, oh, quelle chance il avait. Et puis, il continue, ce que nous avons contemplé, Jean et Pierre ont été invités dans, n'est-ce pas, la transfiguration, à voir Jésus transfiguré. Oh, il a contemplé le Fils de Dieu dans la gloire, Jean. Et puis, il continue, il dit, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, Jean a touché Jésus. Et il me dit, Jean, mais c'est extraordinaire, mais moi, je peux pas avoir cette communion intime avec Jésus, parce qu'il n'est pas là, le Seigneur. Je n'étais pas là de son vivant. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Mais toi aussi, tu peux me voir de tes yeux spirituels. Tu peux me toucher de tes mains spirituelles. Tu peux me voir de tes yeux spirituels. Tu peux m'entendre de tes oreilles spirituelles. Tu peux me contempler de ton esprit spirituel que je t'ai accordé. En fait, nous n'avons pas d'excuses de ne pas être en communion avec le Seigneur Jésus dans la profondeur d'intimité que Jean lui-même avec Jésus, certainement dans une relation où Jésus était présent, parce que Jésus est ressuscité. Et il a fait habiter en nous son esprit qui demeure éternellement avec nous. Et notre relation avec Jésus qui a commencé le jour où nous sommes convertis, lors de la nouvelle naissance, elle va se perpétuer non seulement sur terre mais dans l'éternité parce que Jésus habite en moi. Et donc nous avons cet accès auprès de Dieu le Père en esprit et nous pouvons être intimement liés à Jésus et le contempler, le voir et l'aimer, le chérir, non seulement l'entendre mais lui parler. Nous pouvons le toucher, mais lui aussi nous touche. Vous avez compris ici l'application. Est-ce que nous sommes vraiment baignés de la présence du Seigneur Jésus ? Ici, dans le texte, Jean, comblé, n'est-ce pas ? Il dit, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. La vie a été manifestée. La vie s'est manifestée un jour dans nos vies, le jour où nous avons accepté le Seigneur. Et nous avons reçu Jésus et nous avons maintenant l'assurance du pardon de nos péchés et la vie éternelle. Il est écrit qu'il était auprès du Père. C'est intéressant ici, la préposition c'est comme un face à face. Et ça reprend les premiers versets de l'évangile de Jean qui dit « Au commencement était la parole était avec Dieu ». C'est comme si Dieu le Père et Dieu le Fils étaient face à face. Et maintenant, nous avons aussi, nous sommes engagés à avoir un face à face avec Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est ça la communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils. L'apôtre Paul nous donne un exemple assez extraordinaire d'une communion qu'il avait avec Dieu. Il dit ceci, ou si vous voulez le tourner dans vos Bibles avec moi, le texte et le lire avec moi, je pense que ce serait assez extraordinaire de le regarder. L'apôtre Paul nous fascine de façon exemplaire. Et il dit en Philippiens chapitre 3 et verset 10, on peut lire peut-être au verset 8 pour le contexte, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'était le calcul de Paul. Tout ce qu'il possédait, c'était de la boue, des ordures littéralement dans le texte grec par rapport à la connaissance de Jésus. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ. Voilà la passion de Paul. Connaître Christ. Être en koinonia. Être en communion avec Dieu et Jésus-Christ, son Fils. Et je connaîtrai Jésus-Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ici, lorsqu'il parle de connaître Jésus-Christ, il parle de l'importance d'approfondir sa communion avec Dieu. Et il peut le faire à cause de la puissance de la résurrection. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus se révèle aux enfants de Dieu. Jésus veut remplir nos cœurs. Jésus veut nous remplir de son Esprit Saint. Et lorsqu'il parle de communion de ses souffrances, c'est une expression qui évoque une association, une profonde communion avec toutes les souffrances de Jésus. Jésus a été rejeté, nous allons être rejetés. Jésus a souffert du blasphème. Il a souffert des injures. Il a souffert de toutes sortes de choses. Et ce n'est pas étonnant que lorsque nous aimons le Seigneur, la Bible dit, celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et ce n'est pas étonnant quand l'enfant de Dieu communie dans les souffrances de Christ qui s'achève maintenant en son corps l'Église, parce que l'Église est persécutée, parce que l'Église est rejetée par un monde qui ne l'accepte pas. Et nous avons notre lot de souffrances. Mais l'apôtre Paul disait que même au travers de cette communion de souffrance de Christ, il connaissait Jésus. Plus nous souffrons pour le Seigneur Jésus, plus nous réalisons ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Au travers de nos souffrances spirituelles, nous réalisons ce que Jésus a subi à la croix jusqu'à la séparation d'avec Dieu le Père. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Pierre 4, verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous aussi, vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Comme j'ai déjà mentionné un jour dans l'explication du texte d'Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2 et 3, « Jésus a subi la croix afin d'hériter la joie par la suite et la gloire. Mais nous aimons la joie et la gloire avant la croix. Et le Seigneur nous amène souvent à la croix afin de jouir vraiment de la gloire et de la joie sur terre et dans les cieux, qui sera l'amplification de ce que nous avons été sur terre, la récompense et la vie éternelle dans le ciel. Notre gloire sera l'amplification de ce que nous avons vécu avec le Seigneur Jésus, souvent dans la souffrance et dans le brisement. Nous ne nous avons pas parlé des souffrances de notre combat spirituel. Le diable est une réalité. Il veut nous faire souffrir, voire nous faire tourmenter par toutes sortes de circonstances, d'épreuves, de très enflammées du malin. Mais Jésus est vainqueur. Et un jour nous serons, même si nous goûtons en partie à la communion de ses souffrances, un jour nous serons dans sa gloire pour toujours. Et quiconque a cette espérance, nous dit la Bible, se purifie comme lui-même est pur. J'aimerais nous encourager ce matin. Je pense à un verset extraordinaire qui dit, c'est Paul qui dit en 1 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. » Nous avons eu 4 baptêmes dimanche dernier. Eh bien, c'est un verset pour chacun d'entre nous, même si jeunes chrétiens, nous le sommes ou ne le sommes plus, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Celui qui a commencé cette œuvre a promis de l'achever en nous. Et il dit pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus. Dans ma communion avec Dieu le Père, j'ai une certaine crainte en voyant mon état de pécheur, d'impureté, de nature pécheresse. Mais quand je regarde à Jésus qui me pardonne, cela me comble de son amour. Et il me dit qu'il m'affermira jusqu'à la fin et qu'il achèvera l'œuvre commencée en moi. Dieu est fidèle. Et la Bible dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Celui qui a commencé cette œuvre en nous, celui qui a commencé lui-même cette communion en la répandant par son Esprit en moi et continuellement en train dans sa fidélité de vouloir continuer à me remplir de sa présence parce que Dieu est fidèle. Et si je suis infidèle, lui reste fidèle. Voilà ce que dit un commentateur, John MacArthur, je vous le lis. S'il nous a appelés alors que nous étions encore perdus et méprisables, il ne cessera certainement pas d'être fidèle à cet appel après que nous serons venus à la communion de son Fils. Le terme koinonia, communion, signifie aussi partenariat, unité. Nous avons l'assurance de la gloire par le fait que nous sommes un avec le Fils bien-aimé de Dieu. Nous sommes entrés dans le royaume par grâce et nous y serons gardés par grâce. Qu'est-ce que j'aime cette dernière phrase ? C'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous sommes gardés et c'est par grâce que nous sommes préservés un jour d'entrée irréprochable dans l'éternité. Non pas que nous ne soyons pas irréprochables, non pas que nous ne soyons pas sans reproche, c'est ce que je veux dire, mais Dieu nous couvre de sa grâce. Nous n'arriverons pas au ciel parfaits, perfectionnés certainement par les épreuves de la vie et l'exercice de la foi, mais nous serons transformés à sa gloire entièrement le jour où nous le verrons. Et sa communion qui a commencé en nous sera rendue parfaite. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. On comprend la bénédiction de l'apôtre Jean de Corinthiens qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Si tous et chacun nous étions en communion avec Dieu de façon intime, notre vie personnelle serait transformée. Notre vie d'église serait transformée. Est-ce que nous le croyons ? Est-ce que nous avons ce défi dans nos vies de marcher humblement avec Dieu afin de vivre dans sa présence ? Nous allons prier parce que je pense que je suis qu'à moitié de mon message et donc je ne vais pas vous garder une demi-heure de plus. Mais revenez dimanche prochain. Et nous parlerons de l'amour, notamment de la charité, de la libéralité, de l'exercice des dons, la réciprocité, de l'entraide. Nous parlerons de l'unité et de la loyauté. Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, merci d'avoir placé devant nous ces temps précieux, déjà de communion, d'adoration, d'action de grâce, de partage de ministère. Seigneur, c'est par toi et en toi que nous avons tout pleinement. Merci Seigneur de ta bonté. Père, je voudrais te demander à l'instant de nous accompagner avec ces stands en toute humilité et grâce de nous exposer devant toi, de prendre un moment de recueillement à l'instant et de demander au Seigneur Jésus, que veux-tu de moi cette année ? Qu'est-ce que tu veux faire de moi cette année ? En quoi me conduis-tu ? Pour te servir et t'adorer et être en communion avec toi tout en te servant. Juste un moment de recueillement, pensons à ce que le Seigneur a fait pour nous et nous, qu'allons-nous faire pour lui ?